Voilà, on est entré de plein pied dans la deuxième heure de Sweet Home Chicago numéro 952. On vient de terminer cette première heure avec Easy Baby Malted Milk. Et puis, on va continuer avec Tony Green et Malted Milk. Cette fois-ci, je vais vous offrir une version live. Pas celle de l'album Milk and Green, mais celle live qui s'appelle Just Call Me. Voici le titre Just Call Me. C'est ça, hein? Écoutez ça.
Now, I wrote this song. This is my song, all right? So I need y'all to come on, put your hands together.
Voilà, c'est du live, s'il vous plaît. Malted Milk et Tony Green, l'album s'appelle Milk and Green, tout naturellement. Et puis, je suis au téléphone avec Jean-Hervé Michel de Nueva Onda. Bonjour Jean-Hervé.
Bonjour Marc.
Comment vas-tu ?
Très très bien.
Très très bien.
Un bon week-end ensoleillé dans le sud de la France, hein. Voilà.
Voilà, et puis...
Bon, même si c'est un peu terrifiant pour l'histoire de température, on se demande vers où on va, mais...
Oui, oui, oui.
Le moment est agréable.
Voilà, bon, la température, on la prend également, on prend le pouls également de l'actualité. En ce moment, on a vraiment, vraiment besoin de se changer.
Ça, ça chauffe, ouais, exactement. Ouais.
De se changer les idées avec de la musique. C'est le cas, notamment dans Sweet Home Chicago. C'est notamment le cas pour Nueva Onda depuis plusieurs années. Ça fait longtemps que vous nous faites rêver, Nueva Onda. Ça fait longtemps que ça existe.
Nueva Onda existe depuis janvier 2006. Hein, oui. En tant que tourneur, organisateur de tournées d'artistes.
Ça fait déjà 9 ans,
Déjà, je travaillais avant dans une autre structure avec Popa Chobi, les premières tournées de Music Maker, d'Eric Deep, tout ça, voilà. Donc ça date, je dirais, de un peu plus d'une dizaine d'années, quoi, que, voilà, qu'on bosse dans le blues et le...
Alors,
voilà. Pour Nick Kane aussi, bien sûr, hein, depuis très très longtemps.
Hein. Oui, 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 donc ça veut dire que tu as déjà un long passé de tourneur, notamment d'artistes américains, mais également européens et français. Oui. Nueva Onda Productions, c'est né d'une... Alors c'est quoi comme structure? C'est une SARL? C'est une association?
Oui, c'est une société. Oui,
d'accord.
Oui. Ben, au départ, on faisait beaucoup de musique. En fait, on a un catalogue qui maintenant, je dirais, est aux deux tiers... musique afro-américaine, hein, blues, ouais. Soul, gospel, et un bon tiers musique africaine, en fait. Voilà, ça a été toujours un peu... on a toujours été dans deux mondes, un peu. Des fois, ça se rapproche un poil, mais voilà, on a essayé à
Aéroland. C'est vrai qu'il y a des artistes qui font peut-être la jonction entre les deux. Enfin, je pense, par exemple, à un album qu'on fait ensemble, Habib Kouaté et Rick Bibb.
Oui, voilà, oui, ça c'était exactement, c'est exactement ce qu'on rêvait de faire, en fait, et ça c'est une histoire, bah, c'est le manager de d'Habib Kouaté qui un jour m'a dit, on s'est croisé dans un festival, il serait bien qu'Habib joue avec Eric Bibb, et comme Eric, je savais qu'il avait vraiment une envie d'Afrique, quoi, il n'avait jamais joué en Afrique, il m'en avait parlé à plusieurs reprises, ben, on a monté le projet comme ça, et puis ben voilà, en France, Dixie Frog l'a sorti, parce que le manager d'Habib a aussi un label qui s'appelle Contre-Jour. Mmh. Et ils ont tourné, enfin, moi, je m'occupais que de l'Europe, hein, sur les tournées, mais ils ont tourné dans le monde entier, ils ont vendu plus de 30 000 albums. Voilà. Et ils reviennent d'ailleurs, il y a eu tellement de demandes qu'on revient en novembre 2015 pour une dernière tournée avec Eric et Habib, quoi.
Ça, voilà. C'est une bonne info. Il y a pas mal d'infos qui circulent, notamment émanant, pardon, de Nueva Onda, et notamment au niveau de la sortie de disques maintenant, parce que c'est une nouvelle chose. Nueva Onda Records est né.
Oui, voilà. Donc c'était, on a toujours eu envie, travaillant dans la musique, de faire un label, hein, parce que bon, voilà, en écoutant de la musique, on entend parler de labels qui ont marqué un peu l'histoire de la musique, qui ont ouvert des portes, qui ont fait des tas de choses, que ce soit en punk, en reggae, en rock, hein, voilà, tout ça. Donc il y a toujours nous, en tout cas, on avait toujours un peu cette envie là. Et là, vu ce qui est en train de se passer dans le milieu musical. Une anecdote que je dirais toujours, c'est un label avec qui on travaille encore énormément, hein, qui sont, voilà, c'est Dixie Frog. Et ben, quand j'ai commencé à travailler pour Pachobi à 7-8 ans, il nous donnait du tour support pour faire un Zénith à Paris, pour faire de la pub dans le métro. Et maintenant, ben, quelque part, vu les ventes de disques qui se sont effondrées, tout ça, c'est presque maintenant, c'est les tourneurs qui donnent des coups de main au label pour faire quand un artiste vient en promo sur Paris, par exemple.
Jean-Hervé, ça fait partie des questions que je voulais te poser. Quelles sont tes relations, quels sont les rapports de Nueva Onda avec Philippe Langlois, avec Dixie Frog?
Il continue depuis... Enfin, maintenant, on a des rapports, je dirais que presque la moitié du catalogue de Dixie Frog, c'est des artistes que nous, on fait tourner. Donc, c'est Philippe qui m'a présenté à l'époque, il y a très longtemps, Popa Chobi, Eric Bibb aussi. On a toujours fonctionné sur des va-et-vient. Hein, Music Maker, par exemple, un jour il m'en a parlé. On a développé, ça m'a permis de découvrir Puracé. Et nous aussi, en tant que tourneur, on a amené à Dixie Frog des projets. Mmh. Et on a, c'est par exemple Malted Milk, c'est Nueva Onda qui l'a présenté à Dixie Frog.
Voilà.
Donc,
et puis
on croyait en ce groupe, et donc on cherchait, il leur fallait un label. Et c'est vrai que voilà, je pourrais parler aussi de Big Daddy Wilson, par exemple. Ouais. Là, on a failli faire un truc avec chez Mekia Copeland qui s'est pas fait au dernier moment. pas de notre ressort, du management américain, mais voilà, ça a failli le faire. Enfin voilà, il y a toujours eu énormément d'échanges entre Dixie Frog et Nueva Onda.
Et puis vos actions sont complémentaires. J'ai envie de dire maintenant, quand on va dans un magasin de disques, parce qu'il en existe encore quelques-uns, et qu'on arrive à trouver un rayon où le jazz et le blues ne sont pas mélangés, quand on arrive au rayon blues, on a 80% de Dixie Frog et le reste c'est des vieux Muddy Waters, Johnny Hooker. Il y a plus rien d'autre, quoi. Comment on fait pour écouter de la musique sur CD en dehors de venir acheter des disques dans les concerts?
Enfin moi, en tant qu'auditeur de musique, j'en achète toujours énormément. Ouais. Moi, je vais souvent maintenant sur le site des labels.
Voilà.
Je me dis que quelque part, au lieu d'aller donner de l'argent à Amazon, je préfère aller sur le site Dixie Frog ou sur le site, bon, pas Dixie Frog parce que je les ai les disques en travaillant avec lui, mais certains labels américains comme Lightiniatix, voilà, toutes ces choses-là. Moi, je vais sur le label acheter les disques. Comme ça, au moins, quand on donne 15€ pour un disque, on sait que ça va directement au label. Voilà, ils peuvent développer des choses autour de ça, quoi. Hein, et voilà, je pense que. Mais c'est vrai que, par exemple, un label comme Alligator, qui était avant très, 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 très puissant, on le retrouvait partout.
Tout à fait.
Maintenant, on n'en trouve plus beaucoup de sorties Alligator en France.
J'allais dire, les sorties Alligator tout court, on s'est réduit à peau de chagrin. Il y a 5 ou 6 albums maximum par an qui sortent chez Bruce Iglauer. Et ouais. Alors que dans les années 80, c'était il y en avait énormément.
Bruce, par exemple, on lui a envoyé le CD de Big Daddy Wilson.
Oui.
Parce que c'est un artiste basé en Europe, donc c'est vrai qu'on tombe beaucoup. Ça marche de mieux en mieux. Là, Philippe, justement, va sortir le prochain Big Daddy en mars prochain ou avril, je ne sais plus, produit par Eric Bibb.
Ouais, hein.
Et donc, Bruce a répondu à Big Daddy en disant que lui, il sort des disques pour des artistes qui tournent
aux États-Unis.
Aux États-Unis. Ouais, sinon, il ne peut pas. On peut plus faire comme avant, dire bah c'est pas grave, on le sort sur le label, quoi. Hein.
Non, tout voilà. À fait. Ça a toujours été la politique de Alligator Records de faire tourner et puis de vendre des disques justement au concert. Il faut absolument qu'ils tournent aux États-Unis.
Eh oui, voilà. Sinon, c'est absolument plus rentable. Hein. C'est voilà. Pas les chiffres de vente sont. Ben, je sais pas, moi je vois un mec comme Copa Chubby, même Eric, tout ça, les chiffres de vente ont été diminués par deux.
Et qui sont pourtant les fers de lance. Hein. Et oui, c'est ça. Ce sont ceux qui vendent le plus de disques de blues. On a Jean-Jacques Milteau aussi, qu'on pourrait citer.
Yeah, voilà.
Hein, c'est, y a 3-0, mais il y en a rarement 4 maintenant. Hein. C'est vrai que
non, c'est très, très. C'est un très très bon succès quand on arrive à vendre plus de 10 000, hein, c'est même énorme. Hein.
Ouais, c'est fou ça.
Voilà. Mais ça, et puis il y a les ventes concerts, bien sûr, qui sont encore très très importantes dans ces musiques-là.
Donc c'est parfois, pour certains artistes qu'on ne vient pas de citer, des artistes plus modestes, donc c'est parfois le seul moyen finalement de faire connaître leur musique, c'est de vendre des disques à la sortie des concerts. Qu'est-ce que ça apporte à un artiste d'être managé par Nueva Onda Productions?
Moi, je pense que on n'est pas dans une industrie, nous.
Oui.
Enfin, voilà, on n'est pas dans l'artisanat, je dirais.
Mm-hmm.
Chaque artiste a une histoire différente. Chaque chose qu'on sort, c'est pour des raisons différentes et a des impacts différents. Voilà, je pense que c'est par exemple une histoire comme Alten Milk. C'est totalement emblématique. On a fait rencontrer le groupe avec Philippe à Dixie Frog. Ils ont signé, ils ont sorti 2 albums plus le live, oui. Qui ont vendu très très décemment. En plus, ça a permis, je dirais, au groupe d'avoir une certaine notoriété, le fait d'avoir un label en plus d'un tourneur,
bien sûr.
Ce qui fait qu'ils ont gagné 2-3 ans de travail. Une fois dit ça. Un groupe comme Alten Milk, qui pour moi est le meilleur groupe de soul qu'on peut trouver en France et même en Europe, hein, des meilleurs, hein, on n'a jamais réussi à sortir de France. Ils tournent, ils vivent de leur musique rien qu'en France, mais à un moment donné, dans ce milieu, on peut pas tout le temps faire la même chose.
Non, tu peux pas faire 10 fois le même festival.
Voilà. Donc l'idée, c'est de dire comment on peut amener ce groupe fantastique. Qui vaut tous les Daptones du monde, hein, tous les Dapkins, c'est du même niveau, hein, soyons clairs, hein, je dénigre personne, mais c'est vraiment du même niveau pour moi. Comment on fait que ce groupe va aller jouer à Londres, va aller jouer en Europe, va avoir une carrière internationale? Et donc c'est là la rencontre avec un gars qui travaille depuis énormément, qui est Sébastien Lanchin.
Sébastien Lanchin, oui.
Voilà, et donc qui depuis des années me parlait d'une chanteuse qui s'appelait Toni Green, qui disait que superbe fille de Memphis. Et donc l'idée a germé, pourquoi on ne ferait pas rencontrer Malte de Milk avec Toni Green. Et donc, et ben, ça marche parce que là, on a, en fait, on a sorti l'album en fin octobre. On a pressé 4000 albums pour démarrer, ce qui est très, très correct déjà. Et ben, on est en train d'en represser 2000, là. On les aura la semaine prochaine. Mmh. Donc, c'est que ça a réussi. Ouais. Hein. On va faire, et on a fait qu'une seule tournée pour l'instant. On va être à Vienne avec George Benson. On va être sur des très, très beaux festivals. Et surtout, j'ai fait écouter ça à des labels anglais, le plus gros indépendant anglais, hein, et ils ont complètement flashé sur la musique. Alors, ce qui fait qu'on on va avoir une sortie anglaise.
C'est une sacrée aventure, ça, parce que quand on lit l'interview dans Soul Bag de Todd Green, Malted Milk, voilà, l'histoire, c'est aussi un disque de Malted Milk qui traîne dans le courrier papier de Tony Green, et puis qui se dit, bah tiens, c'est vrai, on vient de m'envoyer un disque d'un groupe français à écouter, bon, on verra plus tard, je ne suis pas forcément excité du truc. Et j'écoute l'album et là je prends une grosse claque, quoi.
Oui. Parce que c'est un groupe. En fait, quelque part, moi je les en dehors des médias blues, je dirais le disque pour l'instant n'a pas eu trop d'écho. Hein, oui. Je suis surpris, simplement parce qu'on dit oh c'est un groupe français. Hein, oui. Donc ce que les blancs habitant à New York appelés les Dapkins peuvent faire, je dirais les blancs habitant à Nantes ne pourraient pas le faire. Oui, sauf moi, que quand on sort du pays et qu'on fait écouter ça à des Anglais qui sont en matière de soul, je dirais s'y connaissent sacrément quand même. Hein. De suite, ils ont on a vraiment de grands espoirs pour notre sortie en Angleterre.
Quoi. Oui, et puis je pense de toute façon, on en a parlé il y a 15 jours avec Igor, hein, le bassiste de Malted Milk, l'ami Igor. Malted Milk jouant à Memphis, je sais pas moi si les spectateurs fermant les yeux auraient pas l'impression d'avoir une section rythmique de High Records
au complet. Il y a des morceaux à l'étape de maquette qui sont passés sur des radios américaines dans le circuit dans le circuit black avec des radios black américaines. Ouais. Et les gens, ils étaient hallucinés. Hein, le gars l'a passé trop fort dans l'émission en disant comment ça se fait que les petits blancs français arrivent à swinguer comme ça, quoi.
Alors on dit parfois nul n'est prophète en son pays. Et c'est vrai que peut-être l'avenir de Malted Milk se situerait en dehors de nos frontières. Je sais pas ce que tu en penses.
Parce qu'on tourne énormément et tous les festivals de jazz, tous les programmateurs des festivals adorent Malted Milk. Ouais. Hein, c'est vraiment un groupe qui, pour moi, ce groupe a un futur, vraiment. Hein. Mais l'idée, c'était vraiment de dire, à un moment donné, si on reste qu'en France, eh ben, on épuise. Hein, on peut pas faire 50, 60 dates par an en France à un certain niveau parce que on repasserait 4 fois dans les mêmes villes. Mmh. Donc, il faut vraiment qu'à un moment donné, laisser respirer un territoire pour aller explorer un autre, pour revenir, avoir au minimum une vraie carrière européenne. Quoi, hein, voilà. Après, aller aux États-Unis, c'est vraiment une autre histoire et on verra ça après. Quoi,
oui, c'est peut-être une autre marche à franchir. Une marche
C'est très, très compliqué. Ouais. Quoi, très lourd et très compliqué. Quoi.
C'est une marche qu'a pu franchir notamment Nina Attal. On en a enregistré à New York dans un studio professionnel et puis elle est revenue avec ses 12 pistes-là, avec uniquement Philippe Devin avec elle. Et donc, elle est revenue retrouver ses musiciens français avec cet album enregistré avec des musiciens américains. Nina Attal qui figure d'ailleurs sur le live de Malted Milk et puis qui a des musiciens communs avec Malted Milk, il faut le dire. Elle fait partie de l'écurie Nueva Onda.
Oui, bien sûr, depuis le début, hein, depuis ses tout débuts. Hein. Voilà, là pareil, c'est un peu une autre histoire. On a écumé la France et on a fait beaucoup de dates. Son premier album autoproduit, bon, qui avait les défauts d'une petite première autoproduction, on en a quand même pressé 10 000 en tout. Mmh. Il a été distribué au Canada, au Benelux, une petite distribution en Allemagne. Mais là, du coup, quand on a sorti l'album, on a trouvé un super tourneur en Allemagne, un gars qui fait Zaz là-bas, qui est une méga star, et aussi un label indépendant, des gens qui viennent de Major, qui ont créé, qui signent 6-7 trucs à l'année et qui se bougent là-dessus, qui s'appelle Skip Record. Et en fait, voilà, les gens de Skip Record sont ultra excités. On a fait la première tournée, il y a des festivals de jazz qui arrivent, il y a des autres dates, il y aura une deuxième tournée qui va se passer sûrement au printemps là-bas. Alors voilà, on est dans une très belle dynamique avec Nina, quoi.
Alors voilà, Nina Attal, on va l'écouter tout à l'heure. On écoutera même le titre qu'elle chante avec Malted Milk sur le live.
Sur le live, oui.
Mais pour revenir donc sur les albums, les sorties maintenant de Nueva Onda Records, il faut compter maintenant avec Nueva Onda Records. Il y a Nina Attal, il y a Malted Milk and Tony Green, et puis il y a également un tout nouvel album de Purafé qui arrive.
Voilà. Et ça explique. Je pense que cet album il est bien pour expliquer un peu les relations qu'on peut avoir avec Dixie Frog. Philippe à Dixie Frog, en fait, il prend en licence les albums. Oui. Il n'est pas producteur d'albums. Hein. Il choisit, il en sort beaucoup moins qu'avant, hein, parce que bah voilà, le marché est là, et il y en a moins, donc il fait très attention à ses sorties. Et par exemple, une dame comme Purafé, qu'on suit depuis le tout début, qu'on adore, dernièrement, les deux derniers albums qu'elle a sortis dans son double live, là, et ben, c'était pas à niveau, quoi, de la dame. C'était fait avec vraiment 2,50 francs aux États-Unis. C'était, voilà, on sentait qu'il y avait une baisse dans la qualité, dans l'exigence musicale. Et nous, si, le truc maintenant, c'est qu'on vend plus d'albums, mais si on n'a pas on produit pas un album, on peut pas tourner. Parce que les gens des salles, les gens des festivals demandent c'est quoi votre actualité discographique, qu'est-ce que vous allez sortir, qu'est-ce que vous allez faire comme promo. Voilà. Et nous, et là, c'était typique, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec Nina? Et avec, pardon, avec Purafé. Avec Purafé. Ouais. Et parce que elle a son public, hein, la dernière tournée qu'on a fait, on a fait une douzaine de dates dans des petits centres culturels, il y avait entre 200 et 300 payants. Donc, ça veut dire que Purafé a son public. À un moment, elle vendait plus de 8000 albums, pas, chaque album vendait plus de 8000 en France, donc il y avait déjà un public. Donc on s'est dit, si on ne le fait pas nous, personne d'autre ne le fera. Mais si on le fait nous, on veut faire quelque chose de qualité. On peut pas faire un album avec 2,50 francs, qu'on essaiera de mec, il y aura des mauvaises chroniques, et ça servira à rien.
Voilà. Et donc cet album de Purafé qui sort, je crois, à la fin du mois de janvier, c'est ça?
Oui, il sort le 27 janvier, ouais.
Il a été enregistré à quel endroit?
Alors, il a été enregistré dans le Gard. Ouais. Bah, mais c'est une histoire un peu plus longue, parce que, en fait, Purafé et Mathis Hogg ont le même ingé son en tournée, ouais. Pour manager ingé son, qui s'appelle Frédéric Loumagne, qui est un ami qui travaille avec nous depuis des années. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Donc, en septembre, il y a maintenant un an et demi, Mathis et Fred sont allés en Caroline du Nord, où vit Purafé. Elle vit dans sa tribu, hein, elle vit dans sa communauté. Et ça a été le début d'un travail. Mais après, donc, ils ont commencé à écrire des morceaux ensemble, d'échanger, tout ça. Et on est venu enregistrer dans le Gard, ici, dans le Languedoc-Roussillon, quoi. Cet album.
Avec du matériel original, avec des reprises?
Il y a des reprises, il y a des chansons qui sont un peu des classiques qu'elle a écrites, il y a des tout nouveaux morceaux, Sacred Seed, le titre éponyme, hein, et il y a une reprise, alors là quand elle m'a dit qu'elle voulait faire ces reprises, c'est bon, pour ceux de l'ancienne génération, c'est le morceau, je dirais même plus le nom de l'artiste, mais c'est Spirit in the Sky. Et c'est un classique qui était dans partout dans les radios il y a 30-40 ans.
J'avoue que tu me colles là, Jean-Hervé. Spirit in the Sky, non, on va demander à l'ami Jalbi, parce que Jalbi c'est un peu notre spécialiste.
Oui, alors Marc, c'est pas Rosenbaum, c'est... Du coup, il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé le 45 tours dans un marché opus, mais je n'arrive pas à dire le nom. Le gars, c'est ce qu'on appelle les One Hit Wonder, il a eu un seul tube, mais ce Spirit in the Sky... Enfin, moi, j'ai plus de la cinquantaine. Hein. C'était des choses qui passaient dans les discothèques. Ça a été un peu un tube, voilà.
Écoute, Jean-Hervé, moi aussi, j'ai plus de la cinquantaine et on n'a pas dû fréquenter.
Tu le connais certainement.
On va faire une recherche tout à l'heure.
Quand tu l'entendras, tu verras, tu le connaîtras. Quoi. Et puis, on reprend aussi dedans une Sentimental Mood de Duke Ellington, parce que la maman de Purafé a chanté aussi dans l'orchestre de Duke Ellington.
D'accord, voilà. Ben oui, ça c'est, voilà. C'est des références.
Donc c'est un peu ça.
Eh ben attends, excuse-moi de te couper, Jean-Hervé, mais on a notre ami Jalbi qui est, non seulement il connaît plein de choses, mais en plus il réagit à la vitesse de la lumière. C'est Norman Greenbaum.
Norman Greenbaum, voilà.
Eh ben tu vois, il vient de nous
citer ça. Merci, Jalbi. Si tu l'écoutes, tu verras que... je dirais les anciens connaissent ce morceau. Ça m'a surpris d'entendre d'un seul coup, après 30 ans après, j'avais pas entendu ce morceau. J'ai dit Spirit in the Sky, mais ça me dit quelque chose. Et puis en fait, voilà, c'était un peu l'idée. Donc tout le monde a apporté plein de choses. Et du coup, on a un très très bel album. En plus, c'est notre graphiste habituel qui fait nos pochettes de nos affiches de tournée, Benito, qui a fait la pochette. Je pense qu'on va avoir un très très bel objet avec du super son dedans. Ça a été masterisé d'ailleurs. Par l'ingé son et le gars qui a enregistré l'album de Malted Milk et Tony Green.
D'accord.
Qui a ouvert son studio à Nantes et qui est un super studio. Voilà. Albert Minocchian, ouais, voilà. Il a vraiment il nous a fait un superbe mastering. Enfin voilà, l'album, il est en cours de pressage là. Voilà.
D'accord. Et bien donc, Matisse Hogg, plus Purafé, plus Inatal, plus Malted Milk et Tony Green. Et puis, j'imagine qu'il y a encore d'autres projets d'enregistrement dans les cartons.
On a déjà enregistré parce que Matisse Hogg, il a aussi un projet absolument incroyable en live, ouais, avec son batteur. Hein, qui a le, et c'est Stéphane Notary, et qui ont un super, enfin lui il faut voir sa batterie quoi, c'est des casseroles, c'est une valise en carton, tout ça, et ils font un truc à deux, c'est à la fois entre les Black Keys, du swing, ça a de la patate, enfin faut voir plus le talent de Matisse sur scène.
Matisse, c'est quelqu'un, franchement, hein, c'est quelqu'un que j'avais pu découvrir il y a déjà plusieurs années au Tremplin Blues sur scène. Il y avait des gens qui, oui, estimaient qu'il n'avait rien à faire là-bas et d'autres qui avaient vraiment pris une grosse claque, j'en étais. Il nous avait gratifié avec ses mathématiques d'un album, c'était il y a un peu plus de 10 ans, qui s'appelait Five, qui était absolument fabuleux dans une veine électro-blues. Et dans ses deux dernières productions Dixie Frog, voilà, c'est quelque chose. En plus, ce gars a une voix extraordinaire.
Il a un charisme, quoi. C'est un vrai chanteur. Il a un charisme. Il a un sens de la composition, mais il compose avec les gens aussi. Enfin, voilà. Pour nous, c'est une super rencontre. Le fait de rencontrer Matisse, bon, il a sorti ce très très bel album produit par Jean-Jacques Milteau, mais très Americana, hein, un album qu'on dirait d'Americana avec des très bonnes chansons. Oui. Mais ça, quand, d'un seul coup, bah, il n'est pas encore très connu. Donc, on met ça sur scène. On sait quoi. On met 5 mecs sur la route. C'est vachement dur, quoi. Financièrement, c'est pas jouable. Ouais. Et donc, c'est lui qui a eu l'idée, ce projet-là, avec son batteur. Et en fait, voilà, on n'arrête pas de faire des dates maintenant. Faut voir ce projet. Et l'idée du live, c'est de dire, il faut garder une trace de ça. C'est tellement bon. Et puis aussi, quelque chose qu'on peut vendre en concert. Voilà, parce que quelque part, maintenant, si un jour un artiste vend 4000 albums, on est à peu près certain que 2000 d'entre eux seront vendus en concert, quoi.
Mais ce qui est absolument hallucinant.
C'est complètement inversé par rapport à avant, quoi.
Ouais. Ce qui est hallucinant aussi, tu le soulignais un petit peu tout à l'heure, Jean-Hervé, c'est français, ça va pas forcément intéresser les patrons de festival. C'est ça parfois, j'allais dire, le réflexe que tu entends, que tu vois, que tu constates.
Oui, complètement. Mais ça dépend. En fait, je dirais qu'en France, c'est très compartimenté.
Hein.
Pour parler de blues, par exemple, l'exemple parfait pour moi, c'est Corey Harris. Ouais. Voilà, Corey Harris qui a une certaine légitimité dans le blues, le lien avec l'Afrique, tout ça. D'un seul coup, il découvre le reggae et il se met à faire du reggae. Mmh. Hein. Et moi qui suis un grand, enfin voilà, j'ai une collection de disques de reggae assez colossale, je dirais, j'écoute ça depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait très longtemps, je suis vraiment un amateur de reggae. J'ai failli travailler avec lui, mais en disant maintenant, les amateurs de blues détestent le reggae en général, et les amateurs de reggae n'aiment pas trop le blues, et surtout quand ils vont écouter ça, ils vont dire c'est pas du vrai reggae.
Oui, bon.
Donc la France est un pays où les styles musicaux sont et les goûts musicaux sont très compartimentés.
Alors ça là-dessus,
c'est un constat. Hein,
je te rejoins là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de musiciens qui sont autour de ce micro là sur le 666 qui donnent un petit peu le même discours. C'est vrai que l'ouverture, c'est loin d'être acquis pour beaucoup de gens. Par contre, moi quand j'écoute un album de blues, j'entends pas forcément que du blues de la plage 1 à la plage 15. Il y a des choses très très différentes. Et puis ça fait quelque chose de cohérent quand même. J'allais dire, le blues continue à se nourrir de toutes les musiques sœurs et le blues a donné naissance.
Très très vivante. Je pense que c'est une musique très très vivante, quoi.
Ça fait partie des musiques actuelles, on doit être d'accord là-dessus quand même.
Et puis, il suffit de le lire ou Libé, Le Monde, tout ça. Le moins d'artistes qui sort, il fait du blues, hein, ouais. C'est de la Sioux, tout ça. Après, on fait une soirée blues au Trianon avec 12 artistes et ils sont pas là. Donc, voilà, c'est un peu ça. Alors que quand, moi, en tant que tourneur, on se balade pas mal à l'étranger. Par exemple, une chanteuse comme la malienne Fatoumata Diawara, oui, on fait tourner dans le monde entier. En France, on est cantonné vraiment dans les réseaux world, dans les réseaux... voilà, c'est vraiment très, très fête de ville, des choses comme ça. Mm. On a été à Londres, on a fait Glastonbury, et une des plus grandes scènes. Hein. Après nous, c'était Public Enemy sur scène. On fait des festivals pop, les grands festivals pop anglais, Bonnaroo, qui est le deuxième festival américain. Pour le premier album, Fatou a joué ça, mais Fatou n'a jamais pu jouer... aux Eurocaennes, aux Vieilles Charrues, au Printemps de Bourges.
C'est
comme ça, ce pays fonctionne comme ça, donc on s'adapte. Mais quelque part, je me dis que certains des artistes, Matisse, Purafé, qui a déjà une carrière européenne, ou Malted Milk, ces groupes ont, ont une vraie, c'est en voyant ça qu'on se dit que ces groupes ont un vrai potentiel hors France. Bon, c'est gagné en France, on a notre public, on tourne, ça va, je pense qu'on gagne, tous ces groupes gagnent leur vie rien qu'à jouer en France, je dirais. Mais quelque part, on a envie d'être ambitieux aussi avec eux, quoi. On a envie que de prendre ce groupe et de le faire découvrir à d'autres, de partir plus loin.
Voilà. Jean-Hervé, je pense que c'est l'exception culturelle française qui veut ça, peut-être quelque part, le fait de tellement compartimenter qu'on en arrive à des choses archi spécialisées. Enfin, je sais pas, moi, parfois on me dit, bah tiens, tu fais une émission de blues, ça va être chiant. Hein, voilà tout de suite ce qui arrive. Et puis, quand on a un petit peu de curiosité, quand on essaie de s'intéresser, ben, on s'aperçoit que c'est tellement pluriel, cette musique.
C'est tellement varié, c'est tellement varié. Mais je vois, nous, en tant que tourneurs, par exemple, on a un peu réussi un coup, je dirais, pourquoi ça, on fait énormément de concerts. Je me rappellerai toujours le dernier numéro de, vous savez, quand il y avait deux revues de jazz, il y avait Jazzman et Jazzmag. Oui. Ouais, voilà. Et ils ont fusionné. Et juste, le dernier numéro, il y avait un truc, une pleine page, disant le blues est mort. Avant la fusion, quoi. Et donc, il avait écrit un truc comme quoi, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'artistes, les bons sont morts.
C'est ce qu'on avait déjà lu en 1958, quand Bill Bronzy est parti. C'était le dernier grand bluesman à disparaître déjà à l'époque.
Hein. Bon, il y aura toujours des panaciers hein, qui font un truc. Voilà. Mais nous, j'avais failli, s'il avait continué, j'aurais répondu. C'est étonnant quand même, parce que le blues est mort, mais c'est marrant, parce que sur le dernier trimestre de cette année, nous, on fait 150 concerts de blues en France.
C'est ça qui est fou.
Ou 120 peut-être, enfin, je sais plus, j'exagère peut-être un peu, je fais le Marseillais, mais voilà, c'était à ce niveau-là, quoi. Mmh. Donc on se dit, c'est assez étonnant de... C'est pas vrai, c'est des musiques ultra-vivantes, parce que c'est un peu l'esprit de ce que fait Eric Bim maintenant, son dernier album Blues People, et la tournée qu'on a montée sur une idée de Sébastien Lanchin d'ailleurs, We Have a Dream. Ça veut dire que les bluesmen, en fait, c'est des témoins de leur temps, et on a besoin de cette musique-là maintenant. Et quelque part, rien n'a changé. Et c'est cyclique, quoi. Je pense que après les années électro, les années techno, les gens maintenant reviennent, ont besoin, c'est normal, de revenir à quelque chose, je dirais, d'authentique.
D'authentique et peut-être d'acoustique aussi. Je voudrais juste revenir.
Acoustique, oui, c'est vrai, tout à fait. Très important.
Je pense ça rentre vraiment dans les oreilles actuelles, on va dire, enfin dans les oreilles des jeunes. Il y a une artiste qui fait partie de l'écurie Nueva Onda, dont je me souviens avoir fait la rencontre lors d'un concert qu'on avait pu faire au Sous-Bock, c'est Gaby Moreno.
Oui.
Latin, soul, blues, c'est vrai que voilà, encore une fois, une artiste un peu emblématique de cette espèce de fusion qui existe, ce pont qui existe entre tous ces styles musicaux, et puis qui le fait de façon tout à fait cohérente, sans qu'on sente quelque part un quelconque plagiat ou un quelconque profit, je veux dire, surfer sur la vague. Non, c'est pas son truc, c'est quelqu'un d'authentique, quoi.
Voilà, elle vit à Los Angeles, mais elle est d'origine guatémaltèque. Oui. Elle a quand même fait un album espagnol qui a été nominé au Grammy, au Latin Grammy.
Oui.
Et en même temps, c'est une artiste qui monte sur scène, elle fait du blues, elle fait de la folk blues. Elle est totalement originale. D'ailleurs, au point que quand Hugh Laurie, quand il a fait sa tournée, elle est devenue chanteuse et guitariste de Hugh Laurie, quoi. Oui. Hein. Voilà, qu'il a fait autour du monde. Allez, le gars, il a pris, j'ai vu le concert des artistes afro-américains de très grande qualité et Gaby Moreno. Voilà. Mais justement, je pense que c'est cette un peu ouverture-là qui manque quelquefois en France en général. Je ne parle pas du milieu du blues, mais je parle du milieu musical.
Oui, mais dans les milieux musicaux, dans les milieux littéraires, journalistiques, etc. Oui.
On est vraiment. Il y a, comme dit, c'était peut-être l'exception culturelle qui a fait qu'on était un espèce d'espace protégé, tout ça, mais du coup, on n'a pas encore été... par exemple, c'est évident, surtout en musique africaine, parce que, quelque part, la world music à la française a dominé le monde, à l'africaine, a dominé le monde pendant des années, et maintenant, on est en train de se faire dépasser par la Belgique, l'Angleterre, parce que tous ces groupes-là, tous ces pays-là, on réussit à trouver ces groupes africains qui mélangent de l'électro, du hip-hop, de la musique moderne. Là, il y a ce nouveau groupe malien qui s'appelle Shongoy Blues, qui a été découvert par Damon Albarn, tout ça. Et la France, en se refermant sur des stéréotypes, je dirais, a raté pas mal de coches. Quoi.
C'est possible.
Et nous, ce qu'on veut maintenant, c'est de dire, on a été les premiers en France, en Europe quelque part, à renouveler le blues, que c'est une musique-là qu'on vient... On fait plein de centres culturels, quand un artiste fait trois dates en Europe, il en fait sept en France, quoi. Donc voilà, on est les premiers. Maintenant, je pense qu'il y a tout ce travail à faire d'exportation aussi.
Très bien. Mais en tout cas, ça voudra dire quand même que Nueva Onda continue à avoir du pain sur la planche avec cette petite cinquantaine d'artistes. Et j'allais dire, le catalogue, il n'est pas fermé. Il peut s'ouvrir à n'importe quel coup de cœur du jour au lendemain, peut-être.
Bah oui. Bah, tous les ans, on signe des nouvelles choses. Hein. Ouais. Après, c'est le problème toujours quand on fait du développement d'artistes. On en reçoit plein de demandes. Et quand on dit qu'on va sur une Nina Attal, sur un, bon maintenant c'est un peu parti Nina, mais sur un Matisseau, sur Maltese, on a un travail, en fait c'est 2-3 ans de travail à perte. Enfin, je parle financièrement, hein, parce que on est une société avec des salariés.
Et ça veut dire aussi l'accompagnement.
Dans la boîte, voilà. Ouais. Donc il faut vraiment croire à l'artiste, il faut qu'il y ait une relation, il faut que maintenant l'artiste croit autant que nous, parce que des fois on a l'impression qu'on croit plus que certains artistes. Voilà, c'est tout un truc, mais faire du développement, ça prend énormément de temps. Est-ce que j'essaie d'expliquer des fois à des gens à qui on dit non, c'est pas parce qu'on a dit non là. Mathis, j'ai dit non pendant des années.
D'accord.
Et à un moment, le moment était bon. Et d'ailleurs, un an après, maintenant, il gagne correctement sa vie, ça tourne beaucoup plus qu'avant. On est en train d'ouvrir à l'étranger. On a fait la Belgique, on va attaquer la Suisse là. Il va tourner avec Curafé, ça va ouvrir l'Europe entière. Enfin, voilà, à des moments donnés, il y a un équilibre à trouver qui fait que nous, on peut être utile à l'artiste, et l'artiste est à niveau, je ne parle pas d'un niveau artistique, mais d'un niveau aussi médiatique, je dirais qu'on peut l'aider à franchir un cap. Quoi. Voilà. Mais à chaque fois, c'est une alchimie différente, à chaque fois, on n'est pas du tout dans l'industriel. Quoi. Voilà.
C'est ça la mission de Nueva Onda Production avec Jean-Hervé Michel au téléphone, voilà, en direct dans Sweet Home Chicago sur le 666, avec ce catalogue de près d'une cinquantaine d'artistes, dont ce sera peut-être ma dernière question, Jean-Hervé, quelqu'un qui habite la région, que tu as dû rencontrer peut-être à l'occasion d'une première partie de Nina Attal, qui s'appelle Alex Massmedia.
Oui, voilà, c'est tout nouveau. On commence le travail avec lui. Pareil, on lui a demandé d'être patient un peu. Il commence à préparer ses premiers albums. On le met sur des premières parties. Voilà, c'est pas évident parce qu'il est un peu entre plusieurs styles aussi. Donc ça, c'est le plus dur à imposer, mais c'est aussi gage de pérennité pour le futur. Quoi. Ça peut le jour où ça partira, je pense ça durera. Voilà.
En tout cas,
il faut de la patience. C'est ça qu'on dit au groupe souvent. Ouais. Il faut vraiment de la patience. Quoi. C'est pas simple, mais voilà.
C'est comme pour les festivals. Hein. Si on vous dit non 10 fois de suite, ça ne veut pas dire que l'année d'après, ça sera toujours non.
Et, exactement.
Effectivement, le moment doit être bien choisi. Et puis, manager des artistes, voilà, c'est travailler avec du vivant. Hein,
c'est un autre boulot. Hein. C'est vraiment un vrai boulot. Ouais. Nous, on n'est pas manager.
C'est autre chose.
C'est vraiment un boulot complètement à part en plus. Hein, voilà.
Alors, Nueva Onda, avec ses sorties d'albums qu'on attend impatiemment, ça sera bien qu'on puisse en faire profiter également, notamment les auditeurs de Sweet Home Chicago et de tout le collectif des Radio Blues. L'album Purafé qui arrive, tu l'as dit, fin janvier, 24 janvier, c'est ça hein?
24, on en aura, oui, oui, voilà, 24 janvier. Et puis, on est au Festival du Fil des Voix le 5 février,
oui.
Pour le lancement à Paris. Hein. Je pense que ceux qui peuvent écouter FIP, ils l'entendront le 26, elle va jouer à FIP le 26 janvier. Et puis après, on sera en tournée. On a une quinzaine de dates dans toute la France pour démarrer, là. Donc là, je ne l'ai pas en tête, là, mais voilà.
Ok, ben on coule.
Et c'est un line-up tout à fait étonnant. Enfin, s'il y aura Mathis Haug avec elle.
Il y aura toujours Dany Godinez ou pas du tout?
Non. Dany, là, il a arrêté il y a longtemps. Dany, c'est quelqu'un, c'était un talent fou. Mais c'est quelqu'un qui est, voilà, je pense qu'il est assez casanier, la vie sur la route, il était très content au départ, mais au bout de 2-3 ans sur la route, c'était pas son histoire, quoi. Quelque part, c'est quelqu'un qui passe sa vie à jouer de la musique, de la guitare, hein. Quand on est passé devant sa chambre d'hôtel à 2h du matin, on entendait des notes de musique. Mais c'est quelqu'un qui donne des cours, d'ailleurs, il bosse du côté de Seattle, là-bas. Il bosse avec quelqu'un qu'on connaît, enfin, dont le nom a beaucoup circulé en France, c'est le batteur de... Ah, Michael Shreve, le batteur de Santana.
D'accord, oui, bah,
voilà, ils font des trucs ensemble là-bas.
Dany a plusieurs...
Très rock à l'ancienne, hein,
il a plusieurs points communs avec Carlos Santana, hein, de toute façon. Il est mexicain d'origine, et puis c'est quand même un fabuleux guitariste. Enfin, voilà.
Ouais, voilà. Mais c'était pas un gars pour qui la route... Et là, c'était pas fait pour lui, la route, quoi. Voilà, c'est plus un musicien de studio, de trucs, que quelqu'un qui aime être sur la route. Il s'est très vite ennuyé, quoi. Voilà.
Alors, en tout cas, on se réjouit de revoir Purafé sur les scènes françaises. Merci à Nouvelle-Vente d'Arien pour ça. Et puis, je n'ai pas oublié l'année où j'avais pu te rencontrer au sortir d'un concert de Purafé. C'était à Cognac où je t'avais demandé si sur la tournée suivante, elle pourrait nous faire une date au Souboc. Ça avait été en 2007, je me souviens l'année. Ça avait été absolument fabuleux. Et c'était une date de route que tu nous avais octroyée, j'ai envie de dire. Et voilà, on a un souvenir très, très ému hein, dans notre petite salle au Souboc.
Ouais. Mais c'est une grande dame, Purafé. Hein, c'est vraiment une grande dame. Hein. Elle a quelque chose. Elle est dédiée à sa communauté, à la défense de l'environnement. Elle a tout son combat tourne autour de ça, autant que de la musique. Quoi. Voilà, elle est totalement ancrée dans son temps.
Ouais, c'est ce qu'on appelle un être humain à part et à 100%.
Exactement, oui, tout à fait.
Jean-Hervé, merci beaucoup pour ta disponibilité.
Merci à toi de m'avoir reçu.
Tout ça, franchement, voilà, on vient d'apprendre plein de choses. On va citer tout à l'heure les artistes qui font partie de Nouvelle Vente Production. On va continuer à écouter Molten Milk, on va écouter Eric Bibb, on va écouter Nina Attal. À très bientôt, Jean-Hervé.
D'accord, au revoir.
Merci, au revoir.
Est-ce que ça va, Nantes ? On est vraiment ravis d'être ici avec vous ce soir. On aimerait accueillir sur scène la première invitée de la soirée, c'est Nina Attal, s'il vous plaît, un maximum de bruit. Sweet baby. Non, fais du bruit pour Nina Attal, s'il vous plaît. Come on. You both.
you feel so lonely, yeah.
Nina Attal avec Malted Milk dans l'album Malted Milk with Special Guest on Stage Tonight at Stereolux, 10 octobre 2013, sorti début 2014. On va écouter Nina Attal dans son album 2014 qui s'appelle What C'est People chez Nueva Onda Records. Les artistes qui font partie de l'écurie Nueva Onda Productions, Alex Massmedia, Big Daddy Wilson, Bob Maghrib, Campbell Brothers, Candy Kane, CJ Chenier, Deba Demba, Eric Bibb et Habib Kouaté, Fatoumata Diawara, Fred Wesley and the New Gibbies, Gabi Moreno, Habib Kouaté, Harley Jekblu, Harrison Kennedy, Joe Louis Walker, John McLaughlin, Justin Adams and Juliette Camara, Casey Brown, Larry Garner, Leila McCalla, Laurie Bell, Malted Milk et Tony Green, Matisse Hogg, Mud Morganfield, Mutularu Ataskate, Music Maker Review, Naomi Shelton and the Gospel Queens, Nikki Hill, Nina Attal, No Money Kids, Orchestra Buena Vista Social Club, Umu Sangare, Papa Chubby, Purafe, Russie Foster, Shakira Saïda, Chemi Copeland, Sidi Touré, Taj Mahal, The Common Mamas, The New Blues Generation, We Have a Dream featuring Eric B., Russie Foster, Harrison Kennedy et Zao. Voilà tous les artistes dont s'occupe Nueva Onda. Encore merci à Jean-Hervé et Michel pour tout ce travail et puis accessoirement pour cette interview fort sympathique et fort intéressante. On poursuit avec Eric Bibb.
Vugani ma Afrika Kati setu sesfigile Uma si bumbene Si zoi kreda Lentlo pego
Madiba led us through the fire But we are still not home yet So many years on the way But we are still not home Where there's a smile for everyone No matter what your tribe or where you come from Where children laugh and play, elders sing Praising the gifts of plenty, harvest brings
Zonginklanga zonginwimi
Each younger generation
Makubakelizwi labo lenyiniso
Joining freedom celebration We show the world we've come far But we are still not home yet We must go on walking as one Cause we are still not home Where there's a smile for everyone No matter what your tribe Or where you come from Where children laugh and play And elders sing Praising the gifts of plenty Each harvest brings Madiba led us through the fire But we are still not home yet So many years on the way We are still not home Where there's a smile for everyone No matter what tribe Where you come from Where the children laugh and play And elders sing Praising the gifts of plenty Each harvest brings
Hallelujah 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 Thank you.
Voilà, un artiste emblématique de l'ouverture du blues vers les autres musiques. André Delange, featuring André Delange avec Eric Bibici sur l'album Blues People, un album que je vous encourage bien sûr à acquérir et qui fait partie de cette sélection des 10 meilleurs albums pour Sweet Home Chicago, tout étant tout à fait partial et partiel, bien sûr. Comment résumer une année à 10 albums? D'abord, c'est impossible. Mais vous êtes donc invité à voter pour l'album que vous préférez parmi toute cette sélection, dont l'album d'Eric Bibb, dont on vient d'entendre un extrait. Quelques nouveautés également dans ce numéro 952, avec notamment D.A. Foster, l'album The Real Thing, dont voici Good Man, Bad Thing. Attention, Soul.
Midnight, I've got to say, it's long past time, I was on my way. It's the first time, baby, the last time too, I can ever give my love to you. I'm just a good man, who's done a bad thing. I'm just a good man. For so long, just a matter of time before we went wrong. If we keep on loving, there'll be hell to pay. But if I walk out now, I can truly say I'm just a good man.
Men, Bad Thing, donc il s'agit de l'album de D.A. Foster. Voilà, on poursuit avec une autre nouveauté, l'album de Greg Nagy qui vient de sortir, qui s'appelle Stranded. Voici le titre album.
Everything I know reminds me of our special place. When I go to the movies, the girl in the story is you. When they ride off in the sun.